Le Bureau d'art et de recherche est une association culturelle installée à Roubaix, fondée en 1999. Ses activités incluent une galerie d'art contemporain, émergent ou confirmé, d'horizons divers. Les expositions reflètent la diversité des pratiques contemporaines. Elle organise également des expositions hors ses murs, en nouant des partenariats. Le Bureau d'art et de recherche développe une approche active de la médiation et de la mise en dialogue. Rencontre avec Éric Rigolo, président du Bureau d'art et de recherche.
On a pendant une dizaine d'années travaillé rue du Grand Chemin en face de la cave aux poètes. Pendant cette période-là, on a fait plutôt de la production, des coproductions. Et aux alentours de 2009-2008, on nous a proposé un autre lieu et de changer un peu de format associatif, donc c'est-à-dire d'être ouvert beaucoup plus, avoir plus de jours d'ouverture, donc du jeudi au samedi, le premier dimanche du mois aussi, et d'être un opérateur culturel en proposant des expositions, des lectures, des diffusions, d'être une cheville ouvrière de partenariat, à la fois dans la promotion, certes des artistes, mais aussi des questions qui peuvent traverser notre société contemporaine. De proposer des ateliers. Là, depuis à peu près un an aussi, on accompagne les expositions avec des bibliographies qu'on réalise avec l'aide et le partenariat de la Grand Plage, donc ce qui donne l'occasion de découvrir des livres, de les parcourir, ou aussi de faire des lectures à haute voix, de manière soit participative ou en recevant des personnes qui aiment lire à haute voix, je dirais.
Peut-être est-ce que vous pouvez nous dire les différentes étapes entre le projet initial et aujourd'hui où vous en êtes ?
Voilà. Avant tout, on est des amateurs, on le reste avec des bénévoles, on n'a pas de salariés. Donc au départ, on était une petite équipe et l'objectif c'était de travailler avec les artistes. Et au fil du temps, on s'est mis à travailler aussi avec les publics et d'autres associations, parce que je pense que c'est important, intéressant aussi de se nourrir dans la collaboration avec des associations qui ont d'autres buts, d'autres missions, et d'aller vers les publics ou d'accueillir les publics, et ça c'est important en tant que tel, et donc de désacraliser, de faciliter, de fluidifier le rapport des uns et des autres aux pratiques artistiques en art visuel et de pas être simplement un producteur mais aussi quelqu'un, une association qui propose de la médiation, des ateliers ou même là cette année on est intervenu auprès d'un certain nombre d'écoles et de publics de CM1, CM2 par rapport au concours d'éloquence que la ville a mis en place. Et le sujet, là, c'était Nelson Mandela. Donc, nous, on défend la liberté d'expression, je dirais, la liberté des artistes, mais celle de tout et chacun. Et donc, d'accompagner des tout jeunes enfants dans ce chemin-là, c'était vraiment intéressant. Hein.
Vous êtes que des bénévoles, et à côté de ça, vous travaillez.
Oui, tout à fait.
Comment est-ce que vous avez réussi à dégager du temps ?
Dégager du temps, c'est par rapport au... Moi, je suis personnellement à la fois graphiste éditorial et enseignant, intervenant, formateur. Donc, c'est de trouver une souplesse dans tout ça. Et puis, de rester accueillant et donc, avec les bénévoles, de pouvoir planifier un montage d'exposition, un après-midi de lecture, du transport d'œuvres, le divers et le varié. Et que chacun y trouve satisfaction, épanouissement. Ça, c'est aussi très important dans la vie d'une association ou être même force de proposition. C'est pas nous qui programmons toutes les expositions qui sont présentées soit au sein de la QSP ou comme on fait des accrochages extérieurs aussi. On écoute, je dirais, et on voit ce qu'on peut faire au regard du projet. Nous, on a un peu un cahier des charges. C'est pas d'exposition solo, c'est plutôt des expositions collective ou de groupe, ça peut être un commissaire d'exposition ou des artistes qui proposent une exposition pour les publics.
QSP.
Quantité suffisante pour. Donc c'est le bâtiment, parce que le bâtiment, il n'y a pas que nous. Il y a une autre association, Etouchane Regard Croisé, qui fait de la vidéo, du documentaire. On a plusieurs sociétés qui ont leur siège social. Moi, j'ai mon bureau, l'association aussi. Et puis c'est un espace qu'on peut recevoir aussi, et on l'a fait là dernièrement, reçu des étudiants qui ont des gestes associatifs solidaires. Hein. Donc il y avait là, on a reçu des étudiants, c'était la table du partage, d'autres qui travaillaient pour l'UNICEF, voilà, et accompagner d'autres initiatives. C'est important, on a un beau lieu, donc autant le partager et puis le faire vivre aussi. Voilà, c'est désacraliser un peu l'art ou l'accès à la création aussi, en proposant une action de soutien. En même temps, on découvre l'exposition qui est ouverte à ce moment-là, et donc croiser les publics et croiser des générations, parce que là, c'est quand même des étudiants qui ont une vingtaine d'années. Et nous, on est un public très diversifié, ce qui est un bonheur. Hein. Ça a été un long travail à mettre en place. Mais maintenant, les gens connaissent le lieu, nous connaissent, savent qu'on peut y voir des choses curieuses. Voilà, et qu'on peut aussi y proposer des diffusions, des sensibilisations à des causes diverses et variées. Et ça me paraît très, très important en tant que tel.
Éric Rigolo, président du Bureau d'art et de recherche.
Au départ, si j'ai bien compris, vous étiez là pour la promotion
des artistes. Et aujourd'hui, on est, je dirais, comme une association beaucoup plus ancrée dans la vie de la cité et l'histoire aussi, nos histoires contemporaines. Hein. Parce que bon, la table du partage, c'est de la solidarité par rapport aux personnes qui manquent de ressources. Sur l'UNICEF, là, c'était par rapport à l'enseignement et à des enfants en Ouganda. Je dirais qu'on travaille avec la FPS, c'est la question de la Palestine et de sensibiliser. Voilà, aussi par le biais de l'art ou de la création. Hein, l'année dernière, dans le cadre d'Urbex, on a pu faire un hommage à Mahmoud Darwish, qui est à la fois un poète, un résistant, un politique et quelqu'un qui était inclus dans la vie. L'art est inclus dans la vie. Et ça, c'est cette dimension qu'on essaye d'amener en accueillant, en partageant, en co-produisant, je dirais, ou co-réalisant un certain nombre d'actions. Hein, je dirais, c'est un peu la culture de mettre le pied dans la porte et d'aller voir ce qu'on peut faire, je dirais. Hein, je prendrai l'exemple, je crois que c'est à partir de 2007 ou peut-être avant qu'on s'est inscrit dans les journées du patrimoine et on a débordé voilà, du champ de l'art contemporain ou de la création contemporaine pour aller questionner c'est quoi le patrimoine et monter soit des balades, voilà, trouver aussi des formes. Ça c'est intéressant, soit les co-réaliser avec le public ou leur proposer et de voir ce qui peut fonctionner. Et on garde un aspect créatif, on reste pas sur nos lauriers, je dirais, parce qu'il y a des formes qu'on peut abandonner, parce que on l'a réalisé, on sait qu'on l'a fait, voilà, on y a trouvé une satisfaction, et la répétition, on est du côté des créatifs, et puis être à l'écoute aussi des publics, de sentir où les publics sont, où ils ont, quelles sont leurs curiosités. Hein, ça, c'est important aussi de se mettre dans ce sens-là.
Réussir à vulgariser l'art et être accessible à tous.
Tout à fait. Moi, je pense que il n'y a pas besoin. Avant tout, c'est de l'émotion. C'est comme toute chose. Soit on a une émotion ou on n'en a pas. Et à partir de là, c'est avec des mots simples Et après, comme toute chose, je dirais, on peut monter, voilà, on peut faire du verbiage ou faire le pédant, ceci. Mais avant tout, c'est l'émotion qui compte. Hein, je dirais, c'est comme le texte, le visuel, si on ressent et faire partager ça, voilà, avec des mots simples, parce qu'on peut partir de la forme et aller à l'idée où on reste que dans la forme, où c'est quoi le beau ? Voilà, j'ai une émotion, le beau, ben, mon sentiment du beau, il est différent d'une autre personne, et l'art nous permet ça, de partager et de voir comment, on, pour tout et chacun, on situe un concept, une idée, et on y va doucement, je dirais. On peut dire, ça j'aime pas, mais ça j'aime. Et c'est pour ça aussi qu'on a monté des expos collectives, c'est rendre curieux. Voilà. Aujourd'hui, on est tellement dans une société où on est mis dans des boîtes et nous-mêmes, on se met dans des boîtes au travers de nos écrans, c'est ceci. Là, c'est de retrouver un sentiment de liberté, d'être un promeneur, de laisser flâner ses yeux, ses idées, je dirais. Hein, une exposition, c'est comme un jardin, c'est comme un bâtiment, c'est comme une ville, ça se découvre. Chacun a son rythme et parfois, je dirais, il n'y a rien à comprendre. Hein. Ce n'est pas de la communication, la création artistique, que ça soit, elle soit musicale, en art visuel. C'est du sensible et il faut se laisser aller. Voilà. C'est du lâcher prise aussi, pas se laisser intimider. Voilà. On peut aimer un bouquet de fleurs ou l'artiste peut représenter un bouquet de fleurs. Après, c'est comment je reçois ce bouquet de fleurs ? Et après, on peut se dire, ah oui, mais il a utilisé, c'est la technique, je dirais. Hein. Et c'est intéressant ce rapport, et Roubaix est, a cette qualité d'être à la fois une ville d'art appliqué par rapport à son histoire textile, l'école, les SAT qui est là, par rapport aux motifs, à ces choses-là. Puis de l'autre côté, on a aussi des artistes, il y a quand même une tradition d'avoir des créateurs et l'énergie, elle est à la fois associative et elle est à la fois personnelle, je dirais.
Quand vous parliez d'apprentissage des émotions, il y a aussi réussir à mettre des mots sur ces émotions.
Oui, tout à fait. Et tous les mots sont bons, je dirais. Et même quand il y a des fautes d'orthographe, si c'est phonétique, voilà, que la personne s'exprime ou ressente ou écoute et dit « Ah, vous parlez bien ». Bon, moi, ça peut me flatter, certes, mais c'est traduire, voilà, pour celui qui n'a pas les mots.
Les mots, les codes.
Voilà, les mots, les codes, avant tout, c'est peut-être un langage tout simple. Et petit à petit, on évolue et on découvre, on est émerveillé. Et ça, c'est magique.
Nous étions avec Éric Rigolo, président du Bureau d'art et de recherche. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus, 106,6.
La vérité, c'est que tu es mou et paresseux.
Moi, je suis toute la journée au comptoir.
Tu es tout le portrait de ton oncle Émile. Celui-là, il passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre.
Oh. Okay. Je suis poli, au revoir. Moi, tu es dur, toi.
Je suis incapable.
Pas gourmand, qu'une trente dédiée aux loucures. j'avais eu du pognon. Oh quel bonheur, tu veux mon avis, de pouvoir me goinfrer comme un cochon. Voilà. Tu n'es pas feignant, tu n'es pas gourmand. L'année passée, au moment des fêtes, dans ma poche il n'y avait plus un radis. Je n'ai pour moi, c'est vraiment trop de peine, surtout le 25 décembre à minuit. Sous au fripier, adieu mon blouson, j'en ai tiré un bon paquet de thunes. J'en ai eu assez pour un gueuleton, j'ai passé d'un au fond, quelle fortune. Je ne m'en mêle pas, je n'y comprends rien. Mais le premier devoir de la République devrait être de nourrir ceux qui n'ont rien.
Get around town, gentlemen, it's the body countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. You go to jail for us. You won't go home. You won't come back. You go to jail for us. You go to jail for us. Get around town, gentlemen. It's the body's countdown. The body counts down. Get around town, gentlemen. It's the body's countdown. The body counts down. Such a drama. Such a war. TV jail for us, TV jail for us. Such a drama, such a war. The TV jail for us, TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Police on the old place and camera lens. Jail for us, TV jail for us. Police on the old place and camera lens. We go to jail for us, TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down.
Bonjour, dans le cadre de Découvrons un village, je suis dans la commune de Saint-Yne, un village situé au sud de Compiègne dans l'Oise. Faisons connaissance aujourd'hui avec Jean-Pierre et Micheline Ponchon, deux Saint-Ynois qui ont grandi et vécu dans le village.
Bonjour.
Bonjour.
Micheline, vos parents sont eux-mêmes originaires de Saint-Yne ?
Ma mère, oui. Et mon père, il est de Verberie.
Vous êtes né en quelle année ?
1940.
85 ans dans la commune ?
Oui, oui. Enfin, on a parti un petit peu 7 ans quand on s'est mariés. On est parti à Béthisy-Saint-Pierre, puis après on a fait bâtir là, et on est là depuis 1970.
70, on est rentré.
Vous n'êtes pas saint-inois d'origine ?
Non, moi je suis juste à côté, à Ruy. J'ai rencontré madame, je me suis marié, je me suis installé à Saint-Ine.
Alors, on va parler dans un premier temps, si vous le souhaitez, du patrimoine de la commune. Est-ce que, Micheline, on pourrait évoquer l'église Saint-Denis et Jean-Baptiste ? Elle s'appelle comme ça, il y a deux saints.
Oui, oui, oui. Ben, je peux vous dire que l'église, qui a une fontaine, la fontaine Saint-Jean, qu'on appelle la fontaine miraculeuse, qui a soi-disant des petits miracles du temps de ma grand-mère qui me le racontait. Maintenant, nous, quand on est habité à Saint-Ine, ça n'a pu arriver, ça. Mais bon, c'était quand même la fontaine miraculeuse. Et on faisait des processions tous les ans à la Saint-Jean. Il y a même l'évêque de Beauvais qui venait, il y avait énormément de prêtres, tout ça, et on défilait autour de l'église avec des bannières, et ils bénissaient cette fontaine.
Elle est située au pied de l'église, hein, ça ?
Oui, 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 oui. Maintenant, on ne peut plus y aller, elle est fermée. On peut y aller, mais il faut le demander, quoi. Elle est entourée.
Alors, Saint-Ine possède aussi un château qui date du XVIe siècle. Il est désormais privé. Vous l'avez déjà visité quand vous étiez plus jeune ?
Non, on jouait autour, on avait le droit de rentrer, on jouait autour quand on était petit, avec le donjon, mais après, ils ont fait des logements dedans. Je ne suis jamais rentrée dedans.
Saint-Ine est également connue pour son usine d'allumettes, on l'appelait la Manu. Forcément, vous connaissiez des Saint-Inois qui y ont travaillé ?
Ben, mon grand-père, il travaillait, et ma mère, et mon frère, toute la famille. Et moi, on m'avait inscrit, mais on ne m'a jamais appelé. Je devais y rentrer, mais c'est mon frère qui est rentré, pas moi. Dommage.
Vous avez donc exercé quel métier à la place ?
Comment ?
Vous avez exercé...
Ah ben, j'ai travaillé à la brosserie à Béthisy-Saint-Pierre. À Saint-Sauveur, j'ai commencé à Saint-Sauveur. Après, ils ont fait fusion, Charret, Chaubrec. J'ai travaillé dans la brosserie.
Et comment c'était l'ambiance à la Manu ? Ils appréciaient les gens de travailler là-bas ?
Oui, ils étaient bien. Il n'y avait rien à dire. Hein. Par contre, il y avait du monde. Hein. Au début que ma mère y travaillait, ils étaient 600. Et quand la barrière se levait, les 600 personnes en vélo, il fallait pas se mettre sur la route. Il fallait faire attention. Hein. Après, il y a eu les mobylettes, après les voitures, évidemment.
Votre maman, qu'est-ce qu'elle faisait précisément dans l'usine ?
Eh ben, elle travaillait sur une machine. Ils étaient à quatre. Pour ne pas faire toujours le même mouvement, tous les deux heures, ils changeaient de place. Parce qu'il y en a une qui mettait les étiquettes, une qui prenait les allumettes qu'ils mettaient dans la boîte et l'autre qui mettait le couvercle. Et ils tournaient comme ça. Ça allait. Et puis après, tous les trois mois, ils touchaient une décade, ils touchaient des allumettes, ils touchaient des cigarettes.
Et donc, elle s'est mise à fumer.
Oui, du coup, ma mère, elle s'est mise à fumer parce qu'elle touchait ses cigarettes. Voilà, c'est comme ça.
Est-il vrai qu'il existait une roue à aube juste à côté de l'usine ?
Oui, cette roue, elle est peut-être encore existante. Il faudrait aller dans les marais de Saint-Ine pour voir. Et là, cette roue servait uniquement à entraîner toutes les machines-outils de l'usine d'allumettes. C'est une autre époque, c'est avant l'électricité. Moi, je n'ai pas visité ça. J'ai visité la Manu. Mais la roue à aube n'existait plus déjà quand on s'est marié. Donc c'est quand ses parents et arrière-grands-parents travaillaient qu'il y avait ça. Dans les années 1920, 1930, quoi, 40, 50. Puis après, la fée électrique est arrivée et ça a moins compliqué les choses.
Quand j'étais plus jeune, je la voyais, cette roue. On allait souvent sur le pont se promener, les enfants, et cette roue-là, je la voyais. Maintenant, il n'y est plus.
Vous, Jean-Pierre, vous avez exercé quelle fonction ?
Moi, j'ai travaillé chez Poquelin, j'étais tourneur, et après, j'ai évolué au fur et à mesure des années pour devenir entrer au contrôle, et puis voilà. J'ai travaillé 30 ans chez Poquelin, à Verberie, hein. C'est pas mal, quoi.
En 2025, il n'y a hélas plus de commerce à Saint-Ine. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme commerce à l'époque ?
Alors, il y avait deux boucheries-charcuteries, il y avait une boulangerie, il y avait un cordonnier, il y avait un coiffeur, que pour hommes. Il y avait trois cafés, une alimentation qui vendait un peu de tout et la COP. Il y avait une boulangerie, une poste, il y avait deux lavoirs, un terrain de foot dont mes trois fils ont joué, un cinéma tous les vendredis.
Il y avait un cinéma dans la commune.
Un cinéma, et on était contents d'y aller parce qu'on n'avait pas de voiture, rien. Et dans le café qu'il y avait, il y avait une grande salle et on venait faire le cinéma tous les vendredis soirs.
Il y avait du monde chaque vendredi, beaucoup se déplaçaient pour voir les films.
Oui, oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de distractions à ce temps-là. Hein.
Les commerces, Micheline, dont vous parlez, c'était en quelle année?
Quand je suis née, il y avait tous ces commerces-là. À partir de 1940, quand moi je suis née, j'ai connu tous ces commerces-là.
Et jusqu'à à peu près quelle année ils sont...
Ils sont partis.
Ça doit être dans les années 80 qu'on a perdu un peu tout. Et successivement, après, la poste a fermé, les cafés ont fermé, et puis voilà. Et maintenant, il n'y a plus rien, quoi. À part un coiffeur, il n'y a plus rien. Mais c'est dans les années 80 à peu près.
Forcément, vous regrettez ce manque de commerce dans le village, cette disparition?
Oui, 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 beaucoup. Hein. Parce que maintenant, comme moi, je veux une baguette de pain, faut que je me déplace. Quoique le monsieur le maire, il a fait un dépôt de pain à la mairie, donc moi, j'y vais. Je vais chercher mon pain, ça m'évite de sortir ma voiture.
Est-ce que, Micheline, vous pouvez parler de l'école qui existe toujours à Saint-Yneux actuellement?
L'école, ben, c'était bien, parce qu'en plus, on était séparés. Les filles dans une école, les garçons, et il n'y avait pas de maternelle à ce temps-là. On commençait à 6 ans à l'école, à l'école de Saint-Yneux. Ben, c'était bien, c'était sympa. J'ai passé jusqu'à 14 ans comme ça. Là, bon, ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Les maîtres d'école étaient bien, tout. Enfin, nous, on avait une maîtresse.
Vous écoutez actuellement l'interview de Jean-Pierre et Micheline Ponchon, deux Saint-Yennois qui ont grandi et vécu dans le village. Tout à l'heure, vous parliez du club de football. Comme dans beaucoup de communes, il avait son importance dans le village. Il n'existe plus aujourd'hui en 2025. Quel était ce lien avec ce club de football?
Nos trois fils, quand ils ont fait ce terrain de foot, nos trois fils y ont joué. Ils ont joué tous les trois jusqu'à temps que ça ne marche plus, quoi.
Il était situé où, le stade et le terrain dans le village?
Au départ, le stade était au cimetière de Saint-Yne. Il y avait, ça doit être Bellevue. Donc il y avait le terrain de campagne, il était en pleine campagne, au-dessus de la butte. Et après, ils ont aménagé un terrain de football à l'initiative de M. Le Large-Maire et de son père, qui était adjoint au maire. C'est les 25e RGA qui est venu creuser le terrain de foot. C'est-à-dire, il a abattu la butte, fait une planéité, et puis là, le terrain de foot, il est toujours là, maintenant il est à l'abandon, puisqu'il n'y a plus personne, quoi. Mais ça partait quand même des poussins, mes fils ont joué aux poussins jusqu'en cadet, si je ne me trompe pas. Et la première de Saint-Yne est montée jusqu'en promotion de première division, et c'était quand même la sortie du dimanche. On allait voir les filles jouer. Même quand ils jouaient mal, on disait qu'ils jouaient bien. on voyait tous les gens de la commune et ça nous permettait de parler, du temps, n'importe quoi, quoi. C'était vraiment sympa. Mais malheureusement, c'est fermé. Hein. Il n'y a plus de dirigeants, il n'y a plus personne qui veut jouer. Voilà. C'est dommage.
Bah, justement, la vie à Saint-Yne, là, dans les années que vous décriviez, 40, 50, 60, 80, même 90, comment elle était?
Elle était bien, parce que déjà, quand on allait faire nos courses, on rencontrait des gens, des personnes qu'on pouvait discuter, parler un peu de tout. Mais maintenant, il n'y a plus rien, c'est triste, c'est vide. Et là, il y a un coiffeur qui vient de s'ouvrir, et heureusement, ça a l'air de bien marcher pour lui. Après, je lui ai même demandé s'il pouvait faire un coiffeur pour dame. Il a dit c'est prévu, mais pas pour l'instant. Ils attendent un petit peu. Mais c'était bien, la vie à Saint-Yne était bien. On allait à la COP, on allait au boucher, on rencontrait, on discutait. C'était vraiment... C'était bien, quoi. Maintenant, je vais chercher ma baguette, je ne rencontre personne. Je suis toute seule dans le pays.
C'est ce qui manque aujourd'hui, en 2025, dans le village, selon vous?
Oui, ça manque énormément. Déjà, quand on prend de l'âge, nous, on a encore la chance de pouvoir conduire. Ça va, mais il y a beaucoup de personnes âgées qui, dans Saint-Yne, ne peuvent pas se déplacer. Mais avant, cette vie qu'elle raconte, c'était vraiment agréable à vivre. On n'avait pas peur du lendemain. On laissait nos portes ouvertes, on s'en allait, pas de soucis. Les voisins veillaient, mais il se passait pas grand-chose. Hein. Puis il y avait un respect absolu aussi. Le respect des personnes âgées, le respect des gendarmes, le respect de tout. On avait un respect. Hein. Nos maîtres d'école sont passés, notre instituteur était passé par là. Hein. Il nous apprenait ça. On regrette un petit peu ces années. On les regrette peut-être parce qu'on vieillit et que la nostalgie la nostalgie des 20 ans peut-être aussi fait qu'on parle comme ça. Hein.
En quoi les commémorations du village, je parle du 14 juillet ou bien celle du 11 novembre, elle était importante pour vous?
Oh ben c'était bien parce que tout le pays, au 14 juillet, sur la place, c'était super. Il y avait des jeux pour les femmes, des jeux pour les jeunes filles, des jeux pour les jeunes hommes et des jeux pour les hommes. Et on passait l'après-midi comme ça. Et puis après, au soir, il y avait un feu d'artifice, puis un grand bal sur la place ou s'il faisait froid dans la salle. Mais c'était vraiment sympa. On se réunissait tout le monde. Ils faisaient une retraite au flambeau avec les enfants. Alors, il faisait un peu dans tout le pays, et puis après, ben, c'était bien, c'était sympa.
Elle a oublié de vous parler d'une chose, c'est la musique. Il y avait une... C'est une clique, hein, c'est pas une fanfare. Il y avait la clique à Saint-Yne. Et ça aussi, il défilait au 14 juillet au son des tambours, avec les clairons. C'était merveilleux, quoi. Hein, tout le monde rythmait la cadence avec les pieds.
Les commémorations, Micheline, c'est aussi celle du 8 mai. Oui. Elle était importante aussi, cette date-là?
Le 8 mai, oui, on allait en bas à la mairie et il y a la musique qui vient jouer. Et le maire, ils font des discours, ils annoncent les noms de toutes les personnes décédées. Et puis après, ben, on va à la mairie prendre le pot de l'amitié, le 8 mai et le 11 novembre.
On l'a dit dans l'introduction, vous habitez Saint-Yne depuis 1940. Donc vous avez vu défiler pas mal de maires ici dans la commune. Est-ce que vous voulez nous parler de un en particulier?
J'ai connu le maire, M. Debuire, et puis après, il a été remplacé par M. Lelarge. M. Lelarge, mon père était conseiller, donc je le voyais un peu plus souvent que... Puis après, il y a eu M. Desmet, bon, on n'a pas eu rien de spécial avec lui. Puis après, avec M. Desmoulins, bon, ben, on s'entend très bien aussi, ça se passe bien. Ils étaient tous plus ou moins bien.
Pour moi, je vais failloter. Pour moi, le meilleur maire là, que j'ai connu à Saint-Yne, c'est Jean-Pierre Desmoulins. Jean-Pierre Desmoulins, c'est un homme qui dit oui quand il faut dire oui, et s'il faut dire non, il dit non. Et quand on a besoin d'un service, si on va à la mairie, il le rend s'il le peut. Donc c'est bien. Et en plus, à la mairie, on est reçu toujours avec un grand sourire. La secrétaire ne revient à la banane jusque-là, c'est merveilleux. Et puis je vous dis, le maire est très attaché à sa commune. Il la défend comme il le peut, mais il la défend. Il y a toujours des gens qui rouspètent un petit peu.
Ben Micheline et Jean-Pierre, c'était un plaisir d'avoir discuté avec vous de l'ancien Saint-Yne du XXe siècle.
Je vous remercie, c'était bien, c'était sympa.
Ben, moi également, je serais heureux de m'écouter sur Podcast. Et merci à vous d'être venu nous voir.
C'était Yann Barré pour Radio Valois-Mulsien. Nous étions avec Jean-Pierre et Micheline Ponchon, deux Saint-Innois qui ont grandi et vécu dans le village.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
C'est les Chasse-Patates sur Radio Campus.
On vous donne rendez-vous le 4 juillet au Grand Sud pour le Grand Bal des cyclistes, la veille du départ du Tour de France.
Parti avec le sourire.
Venez découvrir le tout nouveau spectacle des Chasse-Patates qui vous emmèneront tutoyer les sommets avec des invités et des surprises plein la musette.
J'ai le moral dans les soquettes.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site du Taillé, letaillerproduction.com et sur ticketmaster.fr.
the girl, she's our beauty queen. She hates the movies I like and the music I sing. One day, you know I'll be someone and I'll do something good. And she will clean up the streets.
Continue la liste.
Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste et modéliste.
On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
Dédicacées aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices. Dessinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices, galériennes, magiciennes. Aux historiennes, bohémiennes, grammairiennes, physiciennes, techniciennes, aux gardiennes, électriciennes, mécaniciennes, aux comédiennes, aux pharmaciennes, aux musiciennes, pharmaciennes.
À toutes celles saisonnières, céréalières ou journalières,
qui pour un travail égal, c'est lui qui a fait le mal.
La qualification égale, touche moins, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
Le Nord accueille la 112e édition du Tour de France à partir du 5 juillet. Le 7 juillet, la troisième étape partira de la ville de Valenciennes jusqu'à Dunkerque. 172 km qui traverseront les villes de Saint-Amand-les-Eaux, Orchies, Seclin, Béthune ou encore Cassel. Dans l'Athènes du Nord, le Tour de France est un événement très attendu, comme l'explique Vincent Simonet, directeur général de Valenciennes Tourisme et de la Cité des Congrès. Réalisé lors de l'étape des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France.
Effectivement, c'est une très belle opportunité pour la ville et pour la destination, une opportunité médiatique, une opportunité de pouvoir accueillir le monde entier. On est sur des courses internationales avec une fréquentation internationale également. Et puis de se dire qu'en dehors de la course, les personnes vont passer par Valenciennes, vont voir des images de Valenciennes et vont avoir envie d'y projeter un séjour. Donc c'est pour ça qu'on accompagne ces grands événements.
Quelle est votre place au sein de l'organisation? Vous êtes aussi dans les réunions?
Oui, tout un ensemble de réunions, sécurité, accueil, tout un dispositif pour pouvoir envisager aussi le meilleur accueil possible. Quand on parle du Tour de France, on parle de 30 000 personnes au minimum qui peuvent venir sur Valenciennes avec des restrictions de circulation. Donc comment bien accueillir tout le public et comment surtout lui donner envie de revenir pour y séjourner et pour y vivre une expérience touristique beaucoup plus longue.
C'est un vrai coup de projecteur sur Valenciennes. Comment on en profite ?
On essaye de profiter de tout, on essaye d'être au plus près du public, comme aujourd'hui, être au contact direct de ce public. Ça se prépare sur les réseaux sociaux, ça se prépare sur, avec les restaurateurs. On a aussi des partenariats pour des mises en valeur de restaurants. Et puis dans l'accompagnement de nos partenaires touristiques pour qu'on ait ce maillon et cette chaîne d'accueil et d'hospitalité chère au Nord et encore plus chère sur Valenciennes au niveau de l'accueil.
Vous ressentez déjà à quelques mois du Tour de France, on va dire quelques semaines déjà maintenant, vous ressentez dans les réservations, les nuitées, l'hôtel, la restauration
Oui, alors on a les premiers indicateurs qui sont très positifs avec les équipes, le staff ASO, organisateur du Tour de France. Et puis là, on voit qu'il y a de la nuitée touristique qui vient s'additionner. On sait aussi qu'il va y avoir des nuitées qui vont être concentrées sur Valenciennes, parce que Valenciennes a aussi ce rôle d'être proche de toutes les villes qui vont être ville départ, ville d'arrivée. On est quand même dans les Hauts-de-France, on a la chance d'avoir 4 jours de course. Et Valenciennes peut jouer ce rôle aussi d'appui pour les nuitées. Et on est facilement après sur les autres destination par train ou par automobile, c'est très facile.
Je suppose qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent vous voir en disant comment on vient pour le Tour de France. Ça se précise là où vous avez déjà des pistes?
Oui, tout à fait. On a les premières demandes, effectivement, sur l'organisation. Je viens avec un camping-car, je viens en voiture, je viens en train, où je suis habitant et je voudrais savoir où est le meilleur endroit pour profiter de toutes les animations. Donc là, on a toutes les informations sur les lieux où seront implantés les villages départ, les villages gastronomiques, les bus, cars des coureurs. Donc voilà, on a une très bonne idée de la logistique. Donc on accompagne après chacun, soit par nos réseaux, soit par le site internet et surtout aussi par notre site d'accueil du Monde Piété derrière le Musée des Beaux-Arts.
Comment aussi l'ensemble de Valenciennes Métropole pourra en profiter?
Oui, tout à fait. Donc tout est concentré sur la ville, mais bien sûr, au-delà de la ville, c'est le territoire qui rayonne. Et donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir capter ces personnes, de pouvoir leur montrer que Valenciennes, ils ont déjà un impact très positif quand ils sont sur l'événement, mais que Valenciennes, c'est aussi une dimension nature avec le parc naturel Scarpesco. C'est une dimension aussi patrimoine avec le patrimoine rural du sud du Valenciennois. C'est le patrimoine UNESCO de la mine et la dimension artistique de la ville. Et donc ça, c'est plein de choses qu'ils ne verront peut-être pas parce qu'il y aura un ensemble de caravanes et de villages qui sera installé sur Valenciennes. Mais nous, on surfe sur ce premier avis positif de leur venue sur Valenciennes pour pouvoir les accompagner sur une projection de séjour.
À l'Office de tourisme, le Tour de France se vit avant, pendant et après. Vincent Simonet, directeur général de Valenciennes Tourisme.
Il y a presque un redémarrage derrière le Tour de France où on va pouvoir capitaliser sur les images qui auront tourné. On va pouvoir aussi enclencher des nouvelles actions vers la presse internationale où on aura aussi cet effet, on pourra dire, vous vous souvenez, c'était la 3e étape du Tour de France, ils sont partis de Valenciennes. Donc c'est vraiment très important, c'est effectivement un des gros enjeux avant, pendant et après. Et on est dans une destination qui continue à monter sur la partie loisirs, donc voilà, on prend toutes ces opportunités, on les transforme pour qu'on ait les meilleurs résultats possibles.
Le Hainaut est une terre de vélo. Juste à côté, évidemment, il y a la porte du Hainaut avec les grandes courses cyclistes. Mais vous voulez faire en sorte que Valenciennes ne soit pas en reste?
Oui, et après on réfléchit très largement et non. On sait qu'un touriste ne viendra pas sur un territoire à l'échelle d'une agglomération. Pour lui, venir à Valenciennes, c'est d'être dans le Nord, c'est d'être quasi en Belgique. Donc il faut qu'on unisse toutes nos forces et on est très content d'avoir cette marque internationale du Paris-Roubaix qui est sur notre territoire, sur la Porte du Hainaut, de la dynamique aussi sur la Porte du Hainaut, sur du vélo, qui complète celle qui est sur Valenciennes Métropole. Donc voilà, unissons nos forces parce que le tourisme, il n'a pas de frontières. Donc il faut surtout qu'on puisse développer la collaboration, l'attractivité large et après nous de transformer en nuitée pour que ça fasse des retombées économiques sur notre territoire.
Il va y avoir des visites spécifiques, vous allez profiter du Tour de France, est-ce que vous pensez faire par exemple un city tour sur les lieux du passage du Tour de France? Comment vous pensez réfléchir à l'après?
Alors c'est compliqué parce que le City Tour en fait, c'est assez facile parce que le City Tour, le tour protocolaire des coureurs à Valenciennes, c'est déjà un tour qui emprunte beaucoup de spots touristiques. Donc nous on a ce qui est juste derrière vous, un tuk-tuk électrique, c'est un petit véhicule électrique à trois roues qui peut emporter quatre personnes et on propose des visites guidées tout l'été. Donc ça commence le 5 juillet, donc juste avant le week-end du Tour de France, et puis on accompagne pendant une heure les clients sur les boulevards, sur le centre-ville, et ils peuvent voir déjà toutes les spots patrimoine et cadre de vie de la ville de Valenciennes.
Et puis favoriser la mobilité douce.
Tout à fait, et surtout accessible à tous, hein, que ce soit des enfants, des personnes qui ont du mal à se déplacer aussi. Et on est électrique, donc une douceur, et c'est ce qu'on appelle la Dolce Vita valencianoise, cette idée de profiter de la ville, cheveux au vent et sourire aux lèvres.
Là, il y a le soleil, justement, on vit un petit peu une Dolce Vita aujourd'hui pour le départ de ces 4 jours de Dunkerque à Valenciennes. Ici, c'est un premier échauffement du Tour de France ?
Ouais, c'est une très très belle mise en bouche, on est ravis. Effectivement, le temps ne peut que souligner tous les efforts de tous les partenaires pour l'organisation de ces événements-là. Et oui, on se projette déjà dans cette saison estivale qu'on espère tous très prometteuse, très fournie. Et puis on voit aussi que sur la métropole, il y a un dynamisme avec d'autres partenaires, la Cité des Congrès. On a un ensemble d'événements, on est parti là sur une saison riche en événements.
Récompense les leaders lors des sprints intermédiaires, ceux qui ont donné du cœur gagneront le maillot vert.
À quelques semaines du passage du Tour de France et de sa caravane, Vincent Simonet nous explique ce qu'il reste à faire à Valenciennes.
Ça sera toute la montée en puissance de la communication autour de l'événement, le fait de pouvoir aussi travailler sur les points d'accueil, sur les parkings, sur les différents lieux pour pouvoir orienter les visiteurs qui vont venir de loin et qui seront relayés sur des parkings, des parkings un peu plus lointains, mais sur lesquels on va assurer une mobilité vers la ligne d'arrivée la plus facile et la plus agréable possible. Et puis accompagner aussi nos partenaires, hôteliers, restaurateurs, sur la communication de l'événement.
Il y a une vraie communion aussi entre hôteliers, restaurateurs pour cet événement international.
Oui, tout à fait. L'accueil ne peut pas reposer que sur un unique office de tourisme. On est vraiment sur l'ensemble des partenaires. Et voilà, on sait que tout le monde va passer par un hôtel, un restaurant à un moment donné dans sa découverte du territoire. Et donc, il faut qu'on soit tous unis et qu'on donne tous ensemble cette très belle image à l'occasion de cet événement.
Et cyclistes comme visiteurs, quand ils viennent dans le Nord, ils veulent goûter évidemment les produits régionaux. Là aussi, c'est le local qui sera mis en avant.
Oui, tout à fait. En plus, ça rejoint notre mission permanente de la mise en valeur des produits locaux et des producteurs locaux. Donc, c'est effectivement la mise en valeur des restaurants qui vont travailler ces produits-là. C'est aussi dans notre boutique à l'office de tourisme, la mise en valeur des producteurs, que ce soit du miel, du chocolat, de la bière, de la limonade, de toutes les spécialités qui sont faites made in Valenciennes. Et puis, on sait que les cyclistes, ils pourront revenir chez nous parce qu'on a aussi des réseaux points nœuds, ces systèmes qui permettent de pouvoir accompagner des grandes randonnées pour faire de la grande itinérance à travers le bassin minier.
Comment une ville comme Valenciennes, une grande ville, est une étape du Tour de France? Parce qu'il faut s'organiser, mais c'est aussi bousculer un petit peu les habitudes, que ça devienne aussi un terrain de sport.
Oui, tout à fait, mais c'est toute la force de la ville, de l'agglomération, de pouvoir se mobiliser, de pouvoir mobiliser tous les services, réfléchir ensemble, construire ensemble et innover ensemble. Il y a toujours cette touche valenciennoise de créativité qui ressort, et donc c'est ces défis-là qui sont relevés haut la main et qui sont très plaisants à vivre parce qu'on est sur des tours de table très larges où ça ne se limite pas qu'à des effets de sport et de sécurité, mais on intègre vraiment tous les partenaires pour faire rayonner l'événement.
Sans pression, mais vous êtes prêt à accueillir le monde?
Ouais, avec grande envie. Ouais, grande envie. La pression, c'est la pression de bien le faire. Et ça, c'est ce qu'on vit au quotidien, mais avec beaucoup d'envie, ouais.
Le 7 juillet, Valenciennes accueille la troisième étape du Tour de France. Rencontre avec Vincent Simonet, directeur général de Valenciennes Tourisme, réalisée lors de l'étape à Valenciennes des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France. Ce reportage a été réalisé par Joris Nassens de Radio Club.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Reste pour les icônes.
Vous pouvez écouter les programmes de Radio Campus sur le 106,6 MHz à Villeneuve-d'Ascq ou www.campuslille.com à Juneau, en Alaska.
Toute la misère est là devant nos yeux, en couches, en strates successives. La bête, elle se montre. Elle n'a d'égal que la hauteur des tas d'ordures. Elle n'a d'égal que la grandeur de ses ordures. Pour la misère, on s'habitue la honte. Tous ces pauvres airs ont de pauvres airs. Résidus de quelques guerres, quelques viscères. C'est comme pour les libertés bafouées. On s'habitue, on s'habitue, on s'habitue. C'est comme pour le temps de cerveau. Disponible, on s'habitue, on s'habitue, on s'habitue. Liberté se fait la mal, liberté chérie. Who is fucking free here? La treille des autismes exubérants, arachide des palmiers. Je fais gros dos, je râle, je me fous en boule, j'harangue la foule. Je miaule, je me gratte la poche, je m'habitue. Je danse d'un trottoir. Liberté chérie, who is fucking free here? J'esquive, je vis sur place, on voit la trace de mes godasses. J'aspire à éviter l'ombre, suivant les reflets d'un soleil d'ambre. Cherchant sans répit l'éblouissement caractérisé, je vise les vides, les interstices. Habitué.
show.